France Info.
Et à la une de ce 13 janvier, le choc et la consternation en Corse après l'assassinat d'Alain Orsoni, figure nationaliste tuée hier devant la tombe de sa mère que l'on venait d'enterrer. À la une également, nous en parlions, le début du procès en appel de Marine Le Pen qui risque toujours l'inéligibilité. Le président américain qui menace désormais de droits de douane supplémentaires ceux qui soutiennent l'Iran. Et puis le foot avec une énorme surprise, le PSG éliminé de la Coupe de France par son nouveau voisin, le Paris FC. C'était une personnalité en Corse, figure du nationalisme, nous le disions, du football aussi, car il avait présidé la C Ajaccio. Alain Orsoni a donc été tué hier, et ce qui interpelle, ce sont donc les circonstances du crime. Il a été abattu par balle, probablement avec une arme à longue distance, dans le village de Véro, au cimetière où il venait tout juste d'enterrer sa mère. Méthode qui choque énormément les Corses que vous avez rencontrés à Ajaccio, Simon Le Baron.
C'est une réaction unanime.
Ça se fait pas, quoi. Ils auraient pu régler leur compte après, mais pas ce jour-là.
Et ils ont beau creuser, sonder leurs souvenirs.
Ça se passe dans un endroit où ça se passait pas avant.
Aucun ne se rappelle d'un tel assassinat, devant la tombe d'une mère.
Avant, en Corse, les femmes et tout ce qui est religieux, les enterrements, les trucs comme ça, ça n'arrivait jamais.
Pour nous, les Corses, les morts, c'est sacré. Et là, le fait que ça se passe lors d'un enterrement d'un proche, je trouve ça inadmissible. Après...
Mais on l'entend aussi beaucoup, ce « après », qui veut dire « il fallait s'y attendre ».
Ça reste assez étonnant, mais bon, après, c'était quelqu'un du milieu. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est le cycle d'une vie quand on est impliqué dans le milieu.
Peut-être qu'un meilleur moment aurait été choisi, mais après, ça se passe comme ça ici. Hein.
Tous refusent d'ailleurs de donner leur nom, et certains lâchent ce mot.
Ah, la vendette.
La vendetta.
J'en tue un de chez moi et je tue un de chez toi. Ça a toujours marché comme ça.
On s'y attend tous, hein. Après, il faut faire attention, c'est tout.
La certitude, l'évidence que cela ne s'arrêtera pas là.
Un reportage à Ajaccio a signé Simon Le Baron. C'est un procès capital pour Marine Le Pen qui s'ouvre aujourd'hui. Elle y joue sa survie politique peut-être. La présidente des députés RN, rejugée en appel à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN, affaire qui lui avait valu une peine en première instance de 2 ans de prison ferme et de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui la prive pour l'heure de présidentielle en 2027. Celui qu'elle a désigné comme potentiel remplaçant, c'est le président du parti, Jordan Bardella. Lors de ses vœux à la presse hier après-midi, il a renouvelé son soutien à sa mentor.
Je veux redire avec force mon soutien total et mon amitié à Marine Le Pen. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour et aujourd'hui donnée comme favorite incontestée du scrutin. Elle démontrera son innocence.
Je me garderai bien de tout commentaire politique dans la mesure où le procès s'ouvre dans quelques heures et où, loin de toute volonté de polémiquer, nous entendons démontrer sur le fond notre totale innocence sur cette affaire. Maintenant, les politiques doivent faire de la politique, les juristes doivent faire du droit.
Début de l'audience pour ce procès en appel à 13h30. On l'apprend à l'instant, les indépendantistes du FLNKS annoncent décliner l'invitation vendredi à l'Élysée, invité à discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Paris est sourd et ne connaît que le rapport de force. C'est pour cela que nous n'irons pas à la réunion, déclare le président du FLNKS, la principale formation du front indépendantiste. Plus de 600 morts, c'est le bilan toujours flou que tentent d'établir des ONG en Iran, où des manifestations sont toujours réprimées dans le sang. Face à cela, les États-Unis menacent d'intervenir militairement. Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui son équipe de sécurité nationale pour discuter des options possibles. Il hésite, Franck Madvon, encore entre une intervention militaire et laisser une dernière chance à la diplomatie.
Donald Trump serait plutôt favorable à des frappes militaires, mais d'après plusieurs médias américains, des membres de l'administration tentent de l'en dissuader. C'est le cas de son vice-président J.D. Vance, de nature moins interventionniste. Parmi les arguments des partisans de la diplomatie, la crainte que des frappes ne donnent du crédit au récit du régime iranien d'un complot ourdi par les États-Unis et Israël. En attendant, Donald Trump durcit le ton. Il a menacé hier les partenaires commerciaux de l'Iran de 25% de droits de douane supplémentaires. Tout à l'heure, ses conseillers, des généraux, lui présenteront différentes options, de nouvelles sanctions économiques, des cyberattaques ou des options militaires. Donc, les États-Unis n'ont pas de porte-avions actuellement au Moyen-Orient, mais suffisamment de bases pour lancer des attaques. Une hypothèse pourrait être une nouvelle frappe, après celle de l'an dernier, pour accentuer la pression sur Téhéran avant d'éventuelles négociations. En clair, vulnérabiliser un peu plus un régime iranien déjà très affaibli par la contestation.
Franck Madvon à Washington pour France Info. Et alors que Donald Trump répète qu'il compte s'emparer du Groenland, territoire danois de l'Arctique, un consulat français va y ouvrir d'ici cet été. Les premiers préparatifs seront lancés le mois prochain, consulat pour affirmer le soutien de la France au Groenland. Comment lutter contre les fake news, les infox médicales qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux? Une mission d'expertise sur la désinformation en santé a rendu hier soir son rapport à Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, et sur la base de ce rapport de 50 pages, elle a dévoilé hier sa stratégie contre cette forme de désinformation, Anne Le Gall.
Qu'il s'agisse de vaccination, de cancer, d'alimentation ou de médecine alternative, la désinformation scientifique émane le plus souvent de militants, d'influenceurs ou de lobbies économiques, souligne ce rapport de 50 pages. Sur Internet, ces infox sont bien souvent dopés par des algorithmes qui favorisent l'émotion au détriment des faits, regrettent les auteurs de cette synthèse qui sont trois scientifiques experts en pharmacologie, épidémiologie et santé publique. Dans le sillage de ce rapport, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a donc annoncé hier soir plusieurs pistes pour lutter contre cette désinformation qui constitue une menace.
Quand on est mal informé, on peut soit arrêter ses traitements, soit ne pas les prendre, soit en prendre des qui ne sont pas des traitements homologués par la science. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un risque, avec ces fausses informations aussi, un risque, je le crois, démocratique.
Et parmi les pistes d'action présentées hier par la ministre, il y a l'éducation critique des citoyens, notamment des plus jeunes vis-à-vis des sujets de santé, mais aussi la création, dès la fin de ce mois-ci, d'un système public d'infovigilance afin de mieux repérer les fake news et les corriger plus rapidement.
Anne Le Gall du service Sciences, Santé et Environnement de France Info. Ce n'était vraiment pas le scénario attendu en Coupe de France de football. Le PSG, 16 fois vainqueur de la compétition, vainqueur en titre, a été éliminé en 16e aux portes des 8e de finale. Et pas par n'importe qui, Nicolas Perronnet, par le Paris FC, le voisin. Alors le PSG, forcément, est tombé de haut.
À la sortie du Parc des Princes, les supporters du PSG sont assez unanimes au moment de résumer le sentiment général.
Je suis dégoûté.
Ouais, franchement dégoûté. Hein.
Chems n'en croit pas ses yeux.
Moi, ça fait 10 ans que je suis pas venu au Parc. Et je viens, Coupe de France, je m'attendais au moins à un but du PSG et pas de but, franchement je suis déçu.
Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Cette élimination, c'est la conséquence d'un festival d'occasions manquées, reconnaît le milieu de terrain du PSG, Seni Mayoulou.
On a eu des occasions, on n'a pas réussi à finir, que là on se prend une claque. Un match, c'est un match, c'est une compétition, on veut tout gagner, du coup c'est quand même casse-pied.
Le Paris Saint-Germain ne gagnera donc pas tout cette saison et pour la première fois depuis son arrivée, son entraîneur ne gagnera pas tout. En France, Luis Enrique laisse échapper un trophée et se demande bien comment.
Ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieurs. C'est injuste pour moi les résultats, mais il faut l'accepter. Et c'est comme ça le football, ce n'est pas juste, c'est un résultat tellement bizarre.
Une anomalie, comme de voir la route du PSG s'arrêter dès les 16e de finale de la Coupe de France, une première depuis 12 ans.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Et puis les victoires de la musique, c'est dans un mois tout pile et l'on connaît désormais le nom des nommés. Aurel San va-t-il battre le record absolu? Il a déjà 12 victoires et il est en lice cette année dans deux catégories. Ajoutons que pour la première fois la catégorie de la chanson originale est 100% féminine. Théodora, Bleu Soleil et Louisa, Elena, Charlotte Cardin et Marguerite.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf.
Alors qui remportera la, ou plutôt les victoires de la musique? La réponse, ce sera le 13 février. On suivra ça évidemment sur France Info. Christine Peña, une chanson un peu enjouée, un peu printanière.
Oui.
Ce sera l'ambiance d'ailleurs, printanière, mais si on est dans le sud-ouest.
Hein. Voilà, dans le sud-ouest, oui, nous irons jusqu'à 18 degrés quand même à Bayonne. Hein. Ça fait un
ah
peu
oui,
beaucoup.
Oui, c'est presque estival.
Un mois de janvier, effectivement, ça sera un peu moins marqué, cette douceur ailleurs. Nous aurons quand même à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Bordeaux, à Montpellier, 15 degrés cet après-midi. 13 à Lyon, ça remonte hein, dans l'est et le nord-est également. 12 degrés pour Paris, pour Caen, pour Tours et La Rochelle. 10 degrés pour Strasbourg, Reims et Lille.
Christine Peña et Marguerite pour la météo.